des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, on va parler aujourd'hui d'une voiture japonaise mythique. En fait, je dirais une des plus mythiques de tous les temps,
bien qu'elle existe toujours.
Oui, et il y en a qui vont dire, bon, ben la voiture japonaise la plus mythique de tous les temps, c'est la Datsun Z. Il y en a d'autres qui vont sortir différemment.
Ou la première NSX, tu sais, ce genre de voiture-là. Mais...
Oui, il n'y a personne qui a parlé de la Toyota Starlet. Mais je pense que la Mazda Miata, et je déteste qu'on l'ait appelé MX-5 depuis des années. On l'appelle encore Miata, puis ça fait plus de 20 ans que le nom Miata est plus greffé à la voiture. Alors, je pense que Mazda aurait pu conserver ce nom-là, mais enfin, bref. Et on sait qu'au Japon, c'était même pas le nom qu'on utilisait.
Ouais, c'était Unos.
Unos 800, Unos Roadster, peu importe. Mais pour en parler davantage, on va parler à un gars qui d'abord a acheté ma Miata et deuxièmement les connaît à peu près plus que quiconque. Ouais. Si on suit à toute la documentation qu'il a ramassée et qu'il a dû lire en rafale, je ne sais pas combien de fois sur cette auto-là.
On peut dire un passionné de la première heure. Hein? Donc, ouais. En anglais, on dirait peut-être un early adopter, mais un acheteur tardif, mais un adepte de la première heure. Et on le connaît bien, on l'a reçu à l'émission à quelques reprises déjà. Bonjour,
oui, mais Benoît Lavigne, qui d'ordinaire va nous parler de voitures Mopar. Benoît, ce n'est pas une bonne idée de mettre un L4 sous le capot d'une Miata.
Bonjour, Benoît.
Bonjour, messieurs, ça va?
Ça va et toi?
Oui, très, très bien. Effectivement, tu parles d'un swap de L4. Ça a malheureusement déjà été fait, là, mais ça me manquait de place. Ça débordait d'un peu partout. Mais oui, pour en revenir à la base, comme tu disais, c'est drôle, tu m'as volé un de mes punchs parce que je voulais effectivement parler faire le parallèle entre l'appellation MX-5. Qui est comme horrible d'après moi, puis Miata qui comme convient parfaitement à la voiture.
Ouais.
C'est un peu comme je suis incapable de dire le club de foot de Montréal. Pour moi, ça va toujours rester l'impact. Mais c'est un autre sujet. Mais effectivement, puis il y a juste en Amérique que ça s'appelait une Miata. Puis pourtant, le nom convient tellement bien à la voiture que c'est étonnant qu'il ne l'ait pas conservé. Mais le marché mondial et le marché japonais prime. Il semblerait.
Donc toi, à l'arrivée de la voiture, bon, t'es un passionné d'automobile et avoir toute la quantité de documentation, de publicité, de brochures, d'articles avant même son arrivée que t'as récolté, découpé, rassemblé, t'étais littéralement un adepte de la première heure. Est-ce que tu peux nous remettre en contexte de l'arrivée de la première Miata au cours de l'année 1980? Et nous parler de la réponse de la presse à ce moment-là et surtout de la réponse du public.
Oui, effectivement, comme tu dis, la Miata, les premiers modèles étaient officiellement des 90, mais ils ont été mis en marché au 1er juillet 1989. Il y avait des rumeurs depuis une couple d'années avant là, que Mazda était à préparer une voiture sport, mais on parlait des fois d'une voiture qui était... traction, parce que basé sur la 323, qui est en fond l'ancêtre de la Mazda 3 maintenant.
Puis en fait, je me permets de te couper, Benoît, parce que c'est un Roadster qui a existé, qui s'est appelé la Mercury Capri et qui s'est vendu aux États-Unis. Oui. Cette voiture-là a finalement existé.
Il y a eu un prototype là, qui s'appelait MX-04, qui a effectivement évolué, là, puis qui est devenu la Mercury Capri, qui était, je pense, fabriqué en Australie, puis importé aux États-Unis, si je ne me trompe pas.
Et qui utilisait les bases des escortes des Mazda 323, etc. Ouais.
Mais on était ailleurs complètement avec la Miata.
On était ailleurs parce qu'il y a eu, on parlait de journalistes tantôt, là. Il y a un type qui s'appelle Bob Hall, qui était journaliste à la base dans les années 80, il travaillait pour Auto Week, entre autres. Et puis, c'est lui qui avait fait la suggestion au designer, ou en tout cas à la personne qui s'occupait du développement de la RX-7, pour lui suggérer un petit roster. Quand ils font des réunions comme ça de savoir un peu qu'est-ce que les gens voudraient comme nouveau produit. Lui, il était vraiment le champion d'un roadster, d'un retour aux sources comme ça. Et puis, entre-temps, entre le moment où il était journaliste et a fait cette suggestion-là, il est devenu employé de Mazda. Donc, c'est sûr que cette idée-là, dans sa tête, a continué à progresser tout ça. Donc, on peut vraiment dire que le père de la Miata, là, c'est un journaliste banal, tout ça. Lui,
puis c'était jusque-là la chasse gardée des Anglais, là?
Oui, ben c'est ça. C'est que là, il y avait tous les roadsters anglais, tous ceux qui ont une très mauvaise réputation au niveau de la fiabilité, au niveau de avec les systèmes électriques, puis il y a les fuites d'huile, puis tout ça, mais ça faisait...
Parce que là, peut-être charge. Pour les gens à la maison, là, Triumph Spitfire, MGB, TR6 et compagnie, donc de belles petites voitures anglaises, plaisantes à conduire, pas des bombes non plus, mais qui avaient un sacré défaut, c'est-à-dire la piètre fiabilité, ou du moins la piètre réputation de fiabilité. Et là, avec la Miata, on essayait de venir, réparer finalement, de venir remplacer ce défaut-là.
Ben en fait, je ne sais même pas si on s'est posé la question. C'était dans l'ADN des constructeurs japonais que de fabriquer des voitures plus fiables sur le plan mécanique à la base. Alors, tu sais, ça ne pouvait pas faire pire qu'un Anglais. Là.
Au moment où la Miata est introduite, il reste à peu près juste la Alfa Romeo Spider. Qui était disponible encore sur le marché comme petite décapotable. Donc, c'était à se demander si vraiment il a fallu être visionnaire là, pour voir qu'il y avait un marché encore pour ces deux voitures-là.
Ouais.
Et puis, c'est ce qu'ils disent. Ils ont « build it and they'll come ». C'est un peu la même chose. Là. Si la voiture était offerte, la raison pour laquelle ils s'en vendaient pas, c'était tout simplement qu'il n'y en avait pas d'offerte, là, à part la Alfa, comme je disais tantôt. Donc, ce qu'ils ont fait, ils se sont vraiment inspirés du plaisir de conduire, de l'équilibre aussi de ces voitures-là. Donc, des voitures qui étaient très légères, qui n'étaient pas excessivement...
puissantes.
Qui n'avaient pas beaucoup de puissance. Et puis, c'est ça, mais juste assez pour, justement, pour que la voiture soit super bien balancée. Et puis, ben effectivement, donc c'est ça qui a mené au développement. Pendant que les Américains, au centre de design en Californie, eux étaient les champions d'un modèle à propulsion, avec un moteur à l'avant, un petit 4 cylindres, tout ça. Le centre de design au Japon, eux, ils pensaient plutôt à soit une voiture mid-engine, un peu comme la MR2 qui était sur le marché à ce moment-là. Mais finalement, c'est...
Et la Fiero, faut pas l'oublier.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Ah, zut. Moi, je commençais à l'oublier, merde. Effectivement, c'est la proposition américaine du bureau de design de Californie qui a remporté la palme. Et puis, vers 86, 87, on commençait à avoir un petit peu des voitures de développement. En 88 plutôt, il y a un espèce de photo espion qui a commencé à sortir dans les magazines, tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la voiture parce que même si j'ai toujours aimé les voitures anglaises, j'ai eu des Mini, j'ai jamais eu comme tel de roadster anglais, de MGB ou de Triumph, des choses comme ça, parce que j'étais toujours un peu apeuré par la réputation de la mauvaise fiabilité, tout ça, avec mon expérience.
La Mini Austin que tu avais découpée pour en faire un décapotable, on peut presque appeler ça un roadster anglais, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Oui, ben c'est ça. Ça, c'est des expérimentations de jeunesse.
Oui.
Mais donc, c'est ça. Effectivement, quand j'ai vu le concept, je suis tombé en amour avec le concept tout de suite, sauf que, bon, la situation, à ce moment-là, situation familiale, nouvelle famille, nouvelle maison, faisait que je n'étais pas en position nécessairement de m'acheter un petit roadster neuf qui valait quand même, qui n'était pas très cher quand ils l'ont mis sur le marché, mais ça coûtait quand même cher pour un jouet, simplement parce qu'il ne faut pas se le cacher. Cette voiture-là, c'est un jouet. Je veux dire, tu ne peux pas justifier autrement que je suis allé faire l'épicerie avec la mienne une couple de fois, puis bon, c'est à peine si un sac d'épicerie tient debout dans le coffre. Deux, c'est vraiment exagéré, donc il faut que tu mettes des sacs d'épicerie.
Mais ça serait économique. C'est économique faire l'épicerie avec ça.
C'est vrai.
Effectivement, c'est pas une voiture pour aller chez Costco, définitivement.
Non.
Mais donc, c'est ça. Donc, c'était difficile à justifier de cette voiture-là à ce moment-là. Mais le meilleur des deux mondes, je travaillais chez un concessionnaire Mazda comme aviseur technique. Donc, j'avais l'occasion d'en essayer de temps en temps tout ça, puis effectivement d'expérimenter les changements de vitesse exceptionnels. Le levier de changement de vitesse, c'est presque...
C'est du bonbon, ça. C'est pas vrai. C'est une des meilleures boîtes qui peut pas exister. Et c'est encore vrai aujourd'hui pour une MX-5 flambant neuve. Là. Je veux dire, le plaisir de faire corps avec la voiture et de passer les vitesses là-dedans, moi, je peux pas concevoir qu'il y a des gens qui achètent ça à boîte automatique.
Non, c'est vrai. C'est inconcevable.
Le fait que la voiture, à la base, était très simple. Puis il y avait quand même la simplicité du moteur 4 cylindres, tout ça, mais une certaine un certain modernisme avec l'injection d'essence, l'espèce de sous-châssis là, qui reliait les composantes mécaniques en dessous, tout ça. Mais pas trop compliqué, justement, pour que ça reste quelque chose qui soit facile à entretenir puis qui puisse résister longtemps. Effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à ramasser toute l'information que je trouvais. Je m'amusais à faire un scrapbook avec tous les articles des magazines. J'étais un friand lecteur de tout ce qui se faisait à ce moment-là. Il y en avait plusieurs magazines imprimés, là. C'est plus le cas maintenant, mais dans ce temps-là, on avait les 4 grands, plus Auto Week, plus tout ça. Donc, effectivement, je me suis fait un bon cartable avec toute l'information en gardant toujours à l'idée là, qu'un jour, je pourrais peut-être en avoir une. Là,
Puis finalement, tu m'as arraché la mienne.
Oui, voilà. Mais elle demeure à un bras de distance, Antoine, la tienne. Ouais. Et tu parlais de simplicité technique dans l'ensemble quand même. En arrivant avec la Miata, l'offre aussi était assez limitée, c'est-à-dire un choix de couleur limité, un choix d'options absolument restreint. On est vraiment resté à la base même de l'automobile, là.
Oui, la première année, bleu, blanc, rouge, c'est tout. Puis même, il était possible d'avoir un toit rigide en plastique pour ceux qui voulaient rouler l'automne ou qui étaient plus frileux. Puis le toit était juste disponible en rouge. Donc, même si tu avais une blanche, il fallait soit que tu mettes un toit rouge ou que tu le fasses repeindre. Par la suite, en cours d'année, en 90, ils ont commencé à offrir le silver, la couleur grise. Mais vraiment, c'était toujours intérieur noir, bleu, blanc ou rouge.
Et puis il y a même des Miata, si je me souviens bien, qui sortaient sur des roues d'acier, qui n'avaient même pas de jambes d'alliage.
Des versions de base. Au Canada, pas d'ABS, pas de sac gonflable non plus. C'était vraiment là, très, très. L'automobile dans sa plus simple expression.
Oui, effectivement. Sauf qu'il y en a très peu qui ont été vendus sans option. Parce qu'évidemment, comme toute nouvelle voiture populaire, parce que la voiture a été immensément populaire dès son arrivée. Ils ont fait quand même un bon marketing aussi. Ils ont commencé à faire des publicités avant que la voiture sorte pour la montrer. Puis ça s'en vient bientôt. Puis tout ça. Puis en même temps, il y avait, même avant que la voiture soit mise en marché, il y avait déjà deux clubs de propriétaires. Il y avait le Miata Owners Club, puis il y avait un autre club aussi. Donc, il y avait déjà un très, très grand engouement. Fait que évidemment que les propriétaires de concessions, ils se sont mis à empiler les options, puis empiler les kits de pinstripe, puis de tapis à 800$, tout ça. Donc, il y en a plusieurs qui sont vendus très, très cher, puis ils ont été commandés pour la plupart avec beaucoup d'options. Donc, par contre, je veux dire, il y a des trucs qui sont quasiment obligatoire là, sur le Miata, les roues, entre autres, là, ce qu'on appelle les roues Marguerite, là, les Daisies.
Ouais.
Dans le fond, encore là, on prit l'inspiration des mini-lights qu'on voit beaucoup sur les voitures anglaises. Là.
Ça, c'est vrai.
Un clin d'œil aussi aux voitures anglaises. Là. Donc ça prend ça pour le look de la Miata comme tel. T'sais. Donc, effectivement, il y a eu des modèles de base, mais très, très peu, très, très peu, puis ont été disponibles.
Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit que c'est pas assez puissant, une Miata? Parce que c'est vrai que si on fait juste regarder la brochure et qu'on analyse la puissance, le couple, il n'y a pas grand-chose à offrir là.
C'est 116 chevaux, les premières, là, tu sais.
Oui, mais c'est plus que ça.
L'autre aspect qu'il faut regarder, c'est le poids. Qui est effectivement très, très bas. Là, on parle d'à peu près 1600 livres là, pour les premiers modèles. Puis en plus, c'est l'équilibre. Ils ont vraiment fait le design pour que avec deux personnes à bord et puis un réservoir plein, l'équilibre est de 50-50 exactement là, entre l'avant et l'arrière. Donc, ça fait une voiture qui est très, très bien équilibrée. Même les pneus ont été spécialement conçus pour la voiture. Bridgestone a développé un modèle de pneus là, exprès pour la Miata, pour qu'il puisse avoir un peu un confort de roulement, mais aussi qu'il puisse décrocher très progressivement en fonction du poids que les pneus ont supporté. Là. Donc, malheureusement, ces pneus-là sont plus disponibles maintenant. On peut pas avoir l'expérience totale Miata plutôt, mais effectivement, tout a été pensé vraiment au départ du design de la voiture. Même la tonalité de l'échappement, ils en ont essayé des douzaines avant d'avoir vraiment la tonalité spécifique là, qu'ils espéraient avoir, là, puis qui donnait un peu un son de performance, mais qui rappelait aussi là, les anciens chemins, les anciens Roadster anglais.
La Miata existe depuis 1990. On a vu des générations se succéder de ces modèles-là. Est-ce que tu dirais qu'à un certain moment, Mazda a un peu dérogé de l'objectif primaire de celui qui était une Miata en alourdissant la voiture? Moi, je me souviens d'une année où on avait offert un horrible kit de jupe aérodynamique que tu venais greffer à la voiture à la fin des années 90. Il y a des moments où on a comme oublié quelle était l'essence même d'une Miata. Mais en ce qui me concerne, ça n'a pas duré trop longtemps. Qu'est-ce que tu dirais? Que dirais-tu, toi? Quelles seraient pour toi les pires années de la Miata?
Ben, souvent, je veux dire, quand on regarde les forums ou quand on... les gens vont me dire que la version NC, on appelle, parce que les différentes versions s'appellent, on les a nommées NA pour la première, NB pour la deuxième, NC, et ainsi de suite. La NC, c'est un petit peu la mal-aimée, justement, parce que elle était un peu plus cossue, un peu plus luxueuse. Ils ont même fait un espèce de toit ouvrant électrique, un toit rigide ouvrant électrique qui pouvait s'adapter aussi, qui rajoutait énormément de poids puis qui débalançait aussi la voiture. Mais
ça a été la plus lourde aussi.
Ils sont allés avec le marché. Oui, ils sont allés quand même avec le marché, ce que le marché demandait. À un moment donné, oui, comme je disais, c'est intéressant comme jouet, mais il y a de plus en plus de gens qui disaient, bon, ben, écoute, oui, je veux bien acheter une MX-5, mais tu sais, je voudrais avoir un peu plus de confort, un peu plus de, puis un peu plus d'espace, tout ça. Donc, évidemment que Mazda s'est adapté au marché puis à la demande du marché. Et puis les ventes n'ont pas nécessairement baissé là.
Non.
On regarde différents modèles comme ça qui des fois ont évolué, puis que les ventes ont baissé drastiquement. Ben non, au niveau de la Miata, ça a toujours continué chemin faisant. Ça n'a jamais évidemment rattrapé les premières années parce qu'il y a un engouement du nouveau modèle. Mais je veux dire, ils ont toujours continué d'offrir le modèle, puis ils ont toujours continué d'en vendre des quantités assez grandes pour justifier justement de le garder au catalogue année après année.
Et avec la quatrième génération, on est un peu revenu à une voiture un peu plus puriste qui mise sur le plaisir de conduire, moins que sur les qualités d'une routière comme la troisième génération. Là, on est, même si on a une voiture qui est plus un petit peu plus grosse, un petit peu plus, pas mal plus puissante même, on est revenu au plaisir initial quand même.
On a baissé le poids beaucoup.
Oui, énormément.
Mais
le poids, puis on a monté la puissance. Ça fait quand même une bonne différence.
Je me permets de te couper, Germain, parce que moi, je pensais que Benoît allait parler en tant que pire modèle de Miata de la Fiat 124.
Oui, ça aurait pu, effectivement.
Mais oui et non. Je veux dire,
la Fiata.
Une Fiata, c'est ça. Mais je veux dire, le jour où j'aurai une collection de Miata, là, ben, peut-être que la cinquième, sixième...
On espère que ton épouse ne nous écoute pas, d'ailleurs.
Elle va probablement écouter l'enregistrement. Mais je dis ça, je parle toujours, évidemment, au conditionnel. Mais effectivement, tu sais, probablement que la cinquième, sixième serait une Fiata, là, peut-être même une Abarth, là, pour la curiosité aussi. Là, tout autant que, bon, il y a eu aussi des versions turbo qui ont été faites en 2004-2005, qui n'étaient pas nécessairement hyper puissantes. Puis même...
Mais c'est des voitures exceptionnelles, là. Deuxième génération avec le turbo-compresseur, c'est... Dans mon palmarès de voitures préférées, là, c'est très, très haut. Très, très haut. Mazda les avait ressorti là, il y a quelques années, à l'occasion, si je me trompe pas, du 50e anniversaire de Mazda au Canada. Ils avaient sorti quelques voitures qui appartenaient à la collection de Mazda Canada. Et j'avais pu conduire pendant quelques jours une Mazda Miata Speed. Et franchement, c'est pour moi, on se rapproche de la perfection. Là.
J'avais pu conduire ça, moi, à l'état neuf, quand c'était des voitures médias. Une rouge, parce qu'il y a eu une année, c'était une rouge, l'autre année, c'était une grise. Là. Ma mémoire, c'était ça.
Rouge et grise, c'était pas mal les couleurs.
Je pense qu'aux États-Unis, ils ont eu un choix.
Canada, les États-Unis.
C'est ça. Ils ont eu du noir là-bas aussi. Ouais. Là. Bon. Mais une voiture exceptionnelle, au point où j'en ai fait acheter une au père d'un de mes amis qui la possède toujours.
Wow.
Une 2006. Mazda Speed MX-5, là, c'était une vraie belle voiture.
Oui, ben c'est ça. Puis l'histoire de la Mazda Speed aussi, c'est un petit peu spécial.
J'ai dit 2006, mais c'est pas vrai, c'est 2005, je pense.
C'est 2005,
c'est ça.
C'est ça, parce que même les 2005 sont particulièrement rares, parce que l'usine où ils produisaient les pièces spécifiques, où ils faisaient l'assemblage final des Mazda Speed, on appelle MSM, là, Mazda Speed Miata, qui est l'acronyme, l'usine a passé au feu à la fin de l'année 84. Donc, les modèles 85, il y en avait très peu de produits. Et puis,
tu veux dire 2005?
Oui, c'est ça, pas 85, oui.
Excuse-moi, oui, désolé. Elle est 2005. Donc, il y a eu beaucoup plus de 2004, ben, en fait, quelques milliers. Et puis en 2005, effectivement, juste la production a été très écourtée. Donc, si la voiture a trouvé là, pour une voiture de collection, ben, ce serait plus la 2005. Quelqu'un, si on entre quoi, pour ma sixième voiture dans la collection de Miata. Peut-être la troisième.
Ah, bon, peut-être la troisième. Toi qui es aussi évaluateur de voitures anciennes, Benoît, comment on explique le fait que les Miata, principalement de première génération, ont vu leur valeur monter? Donc, il y a quelques années, une Miata de la première génération qui avait entre 150 et 200 000 kilomètres, qui n'avait jamais vraiment roulé l'hiver, on pouvait en trouver pour 3 à 4 000 $ en étirant. Ouais. Aujourd'hui, ce sont des épaves pratiquement finies qu'on retrouve dans ces prix-là. Et une belle, ben, ça va être entre 7 et 10 000. Comment on explique cet engouement pour la première génération de la Miata?
Oui, j'en parlais justement sur un groupe Facebook il y a quelques temps, puis je parlais de la gentrification des Miata première génération. Effectivement, c'est ce qui arrive, c'est que c'était des voitures qui étaient abordables parce que c'était juste des voitures usagées, puis en fait, il y en avait pas, celles qui étaient en bon état, justement, partaient, mais étaient souvent modifiées, tout ça, donc il y en avait de moins en moins en bon état. Et puis, il y a des gens comme moi qui, dans la cinquantaine, là, qui, quand ils en ont vu neuve, qui n'ont pas pu en acheter à ce moment-là, qui veulent en avoir une maintenant, et puis pour qui, dans le fond, entre 3 000 et 5 000 ou 6 000, ou en autant qu'ils trouvent la bonne voiture, ben ils vont être prêts à mettre le prix pour avoir la bonne voiture en bon état. C'est ce qui fait justement que le bassin de voitures disponibles, ben il diminue, et puis ça fait augmenter les prix. Mais c'est juste normal. Ces voitures-là ont 30 ans et plus, donc ils commencent à avoir un statut de collection, et puis c'est normal que la valeur commence à augmenter pour les voitures en bon état. C'est ça qui est important de préciser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces voitures-là qui sont très rouillées. La protection pour la rouille était pas tellement bonne, mais meilleure qu'à la moyenne, je dirais, mais était quand même pas tellement bonne.
Et puis c'est pas tellement bonne. Moi, je dirais absente, là, mais...
mais ils ont eu la chance de pas rouler l'hiver. Beaucoup. Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et oui, c'est ça. C'était vraiment pas fait pour rouler l'hiver, là, entendons-nous. Et quand on regarde le reste du marché, une voiture décapotable, une voiture agréable à conduire, à 7000 $, on n'a pas grand-chose, là.
T'as une Golf cabriolet dans un état très ordinaire.
Oui, c'est ça. Donc, finalement...
Ça n'a pas le même charme. C'est pas un sports car. C'est une voiture compacte décapotable.
J'aime ça que tu m'amènes sur ce terrain-là parce que, moi, un truc qui m'a toujours fasciné, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun constructeur automobile qui tente de répliquer au succès de la Mazda MX-5? Toyota l'a fait avec la MR Spyder aux États-Unis. Ça a été un échec monumental.
Qu'on n'a pas eu ici, donc...
Puis je te parle pas de la Pontiac Solstice. Écoute, moi, je m'étais présenté...
Parce que c'est vrai que c'était une tentative, là.
Oui, puis moi, je m'étais présenté en 2000, je crois que c'était en 2008. C'était avec une Saturn Sky, qui est la même chose qu'une Solstice, qui est une Opel GT, en fait, européenne. Je m'étais présenté dans un rassemblement de Mazda MX-5 à Laval avec une Saturn Sky et j'avais montré la voiture à tout le monde. Et je pensais, ironiquement, que tout le monde allait lever le nez sur l'auto en regardant ça de loin. Et au contraire, tous les amateurs de Roadster qui étaient là étaient fascinés par cette auto-là. On s'est vite rendu compte que la voiture avait de sérieux vices de conception, puis bon. Mais au niveau du look, c'était réussi. Oui. Puis c'était une première véritable réplique offerte sur le marché canadien à la MX-5.
À part les italiennes là, qui continuaient d'être offertes, les Alfa puis les Fiat Spider, mais effectivement, probablement que la Miata remplissait déjà pas mal tout le marché qui était disponible, le marché d'acheteurs disponible. Ils en ont quand même fait, je pense qu'en 2016, ils ont fait la millionième Miata. Donc c'est sûr que cette voiture-là, surtout vendue dans la troisième génération NCND, commençait à offrir assez de tu sais, il y avait un toit rigide, il y avait un toit souple, tu pouvais avoir différentes options qui faisaient justement que ça rejoignait plus d'acheteurs que juste un roadster tout simple là, comme la première génération là. Donc, probablement que c'est ça. Il remplissait le marché. Il était capable de combler le marché avec l'offre de Miata. Puis, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de place pour d'autres compétiteurs.
Ces dernières années, on a vu la Volkswagen Beetle qui était offerte en cabriolet, évidemment, disparaître. On sait que la Mini cabriolet vit, elle aussi, sur du temps emprunté et ne sera pas renouvelée. Comment on s'assure de la pérennité d'une voiture aussi aussi nichée que la MX-5?
Ben, j'imagine que, comme je disais tantôt, tant qu'il y aura un marché, tant qu'ils réussiront à en vendre quelques-unes, comme toi, il y a eu 4 générations de la voiture seulement en 30 ans, en plus de 30 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas une voiture qui est renouvelée très, très, très souvent. Donc, c'est sûr qu'ils amortissent les coûts de production et tout ça. Donc, tant qu'il continuera d'avoir une demande qui peut être amortie sur plusieurs années, sur une dizaine d'années à chaque génération, ben, ils vont continuer à l'offrir. Il n'y a pas de raison. C'est sûr qu'évidemment, le jour où ils vont en vendre 300 ou 400 par année ou quelque chose comme ça, ben, ils vont sûrement reconsidérer. Mais il y a toujours une place pour des voitures amusantes. Puis, on parle même qu'une prochaine génération de Miata pourrait être électrifiée. Moi, j'ai rien contre. Je continue à répondre un peu à la mission de la Miata, qui est une voiture amusante à conduire.
Mais des batteries légères, ça n'existe pas, par exemple.
Ça va venir, mais encore là, c'est pas une voiture sur laquelle tu as besoin d'avoir 4 ou 500 km d'autonomie non plus. Jusqu'à date, oui, il y en a des maniaques qui vont faire des grands voyages en Miata, tout ça, mais considérant l'espace de rangement, puis tout ça, ça reste une voiture de fin de semaine, une voiture pour aller faire des balades régulières, tout ça, dans mon cas, moi.
Puis, évidemment, avec la COVID, évidemment, les gens ont été restreints au niveau des voyages et Mazda a vu les ventes de la MX-5 monter, grimper en flèche aux États-Unis comme au Canada, dans un volume qui demeure raisonnable. On parle pas de volume de Honda Civic ou de Toyota RAV4, bien sûr, mais les ventes d'un modèle qui n'a pas évolué depuis plusieurs années ont augmenté cette année. Et la valeur sur le marché des modèles récents a, elle aussi, augmenté.
Premièrement, faut en trouver, là.
C'est ça. Alors, c'est fascinant de voir que là, il y a une recrudescence de popularité de ce modèle-là due au fait que les gens y voient un intérêt pour s'évader de façon différente à un voyage dans le sud comme on faisait jusqu'à tout récemment. Alors, ça aussi, ça contribue au succès de la MX-5. Merci, Benoît, d'avoir été avec nous. Puis j'espère que tu vas prendre soin de ma voiture.
Ce n'est plus la tienne, Antoine.
Je sais.
Merci, Benoît.
OK.
Merci beaucoup, messieurs.
Bye-bye.